des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Ah, ces maudites grippes qui nous privent de nos invités, qu'à cela ne tienne, laissez-moi vous parler d'une nouveauté audio sportive consacrée à Scotty Bowman, un livre signé Ken Dryden, gardien de but mais aussi biographe et même lecteur en anglais de quelques-uns de ses livres, dont le fameux Scotty, qui est sorti en librairie d'ailleurs en imprimé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est toutefois à Marc Bélanger qu'on avait demandé de lire cette version française que vous retrouverez bien sûr sur la plateforme livreaudio.vusetvoix.com, et c'est lui le pauvre Marc qui crache ses poumons en ce moment et qui ne pourra être des nôtres. Et puis comme on est dans le sport, remarquez, non, je suis pas sûre de vous reparler un petit peu, non, j'ai envie plutôt, tiens, qu'on aille dans la science-fiction, et pourquoi pas, il y a des nouveautés qui sortent pas mal, notamment chez Audiolib, alors je vais vous en parler. En seconde partie, notre amie Claudia Larochelle viendra nous présenter deux ou trois livres parmi les 10 qu'elle a lus dans les deux dernières semaines. On fera la partie belle à deux prix Nobel, notamment à une femme. Après tout, on est bientôt le 8 mars. C'était bien la moindre des choses que de rendre hommage à Toni Morrison avec le livre Beloved. Et puis, je vais finir cette émission avec une toute sorte de propositions que je vais vous faire, une foule d'extraits à vous présenter et évidemment énormément d'extraits à vous glisser entre les oreilles. En attendant, tenez, pour nous mettre dans l'ambiance du hockey, voici un petit mix de ma composition.
Le mois de janvier 1937 marqua la fin d'une grande carrière. Howie Morenz, le fameux numéro 7, quitta le match sur une civière. Consternation dans les gradins. Prends le bas de combat dans la chambre des joueurs. C'est une fracture, dit le médecin. Appelez l'ambulance, dit le ramoncheur. À l'hôpital Saint-Luc, un peu avant minuit, la jambe dans le ventre, l'œil un peu triste. The Lightning Man déclare au journaliste: I will be back for the series. Mais la vie réservait un autre sort à la superstar du tricolore. Une embolie cérébrale fatale. Hors d'un héros, deuil national.
On veut pas me laisser entrer, car je ne trouve pas mon ticket. Je veux pas rester toute la soirée dans les coulisses. Je veux crier, vas-y Maurice. Rock and roll, rocket, rocket, rock and roll, rocket, rocket. Je suis énervée, je suis excitée, je veux me rouer à force de crier. Rock and roll, rocket, rocket, rock and roll. Rocket, rocket, c'est vraiment bête de manquer son requête pour un ticket.
Et c'est au Québec, il fait pas froid, il fait frais, c'est de même parce que c'est de même. Puis c'est bien correct, on a de la place en masse. Puis nous face à face, on les fait sur la glace. Alors on lasse nos pattes, puis nos casses. C'est comme Maurice, on glisse dans la reine avec la reine. La défaite et le feu dans les yeux. En fait, quand on veut, on peut gagner.
En des temps si lointains que les Franco s'appelaient Canadiens, à une époque où l'époque était faite de crottins, on leur réunit des hommes dont le destin commun est comme un film sans fin.
En technicolore et tricolore,
bleu comme le Saint-Laurent, blanc comme l'hiver, rouge comme le sang qui nous coule à travers. Le corps de l'équipe, c'est le cœur de la nation. Chaque année, avec une célébration.
Ils diront jamais telle qu'elle aux nouvelles, mais le tissu social de Montréal, c'est de la sainte flanelle. Quand il est question de hockey, nous on fait pas dans la dentelle, ok? C'est plus qu'un sport,
c'est une métaphore de notre sort.
C'est ça qui nous ressemble, c'est ça qui nous rassemble. Hors oh, de manque, on peu importe la couleur de peau. Si tu détestes Toronto, le sang qui bouge dans tes arbres, arrête aussi rouge, mon pas que les chandails de nos vainqueurs. Le vainqueur qui ne t'avait pas dans les Canadiens. Pour le voir, allez tous les Québécois.
Allez, 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 Montréal. Allez, 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 Montréal. Allez, 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 Montréal.
la voix de Denis Filiatro, bien sûr, et qui était encadrée là par mes aïeux et Loco Locas. Ouais, ça va pas fort, il paraît, pour le Canadien de Montréal. Je peux pas vous dire que je suive ça énormément. Du moins, il faut que je sois honnête. Pas maintenant. Il fut une époque où je suivais le hockey. Je trouvais ça... Ben, je trouvais ça incroyable comme sport. C'était dans, au début des années 90. Mais maintenant, j'ai un petit peu perdu le fil, d'une part. Le fil des joueurs aussi. Qui joue, qui joue pas, j'en sais rien. Qui entraîne pas. À part, je sais que c'est Claude Julien pour le moment. Peut-être même qu'au moment où on va diffuser l'émission le 6 mars, il sera peut-être plus là le bonhomme. Enfin, en tout cas, voyez-vous, je sais quand même encore des choses. Et ce que je sais, c'est que il y a un livre de Ken Dryden, le gardien de but, qui s'est mis à l'écriture et qui, ma foi, le fait fort bien. Il y a un livre qui est sorti au sujet de William Scott Bowman, autrement dit Scotty Bowman, que beaucoup d'entre vous doivent beaucoup mieux connaître que moi, mais j'ai fait sa connaissance en lisant. Bon, je vous avouerai qu'il y avait des passages que je lisais un petit peu en diagonale, mais j'ai lu ce livre qui est consacré à Scotty Bowman. Ce bonhomme, bon, qui est né, famille ouvrière, il est né en 1933 à Verdun, qui est maintenant un arrondissement de la ville de Montréal. Ce n'était pas le cas à l'époque. Et un type qui, et ça c'est raconté, dans, c'est une des histoires qui est fortement abordée dans le livre de Ken Dryden, un type qui a vécu un drame terrible finalement quand il était junior, je ne sais plus dans quelle équipe il jouait, mais il y a un certain Talbot, qui après s'est fait connaître d'ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, qui... À un moment donné, Scotty Bowman fonçait au but et l'autre l'a rattrapé. Et non seulement il l'a freiné, mais il lui a asséné des coups de bâton sur la tête, 14 points de suture et carrière terminée pour Scotty Bowman. Ni plus ni moins. Il n'a jamais plus... il s'en est remis en tant qu'homme, mais ça lui avait enlevé certaines capacités pour poursuivre sa carrière. Drame pour lui, évidemment, parce que... Le hockey, le sport d'ailleurs en général, c'était toute sa vie. Ce type-là jouait au baseball, il jouait au soccer, il jouait au hockey, et partout, quel que soit le terrain sur lequel il jouait, il était excellent. Mais là, fin de partie, et impossible de pouvoir rêver à des clubs du moins professionnels. Il a continué à jouer dans des petites ligues mineures, mais en tant que pro, il fallait oublier ça. Et puis bon, je vous passe tous les détails, mais ce que nous raconte Ken Dryden, c'est comment il en est arrivé à un moment donné à devenir le bras droit de Sam Pollock, et puis devenir le héros des bancs en tant qu'entraîneur. Il faut quand même rappeler que ce bonhomme-là, il a remporté à 5 reprises avec Montréal. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En 73-76, imaginez, 76-77, 78 et 79, 4 années de suite, la Coupe Stanley. Il l'a remporté avec Pittsburgh à l'époque où moi je regardais ça, en 92. Ensuite, il l'a remporté 3 fois avec Détroit en 97, 98 et en 2002. Et puis, il a été jusqu'en finale, alors qu'il était directeur sportif des Pingouins en 1991. Imaginez un total de... En une saison, à un moment donné, il a emmené une équipe à faire plus de 60 gains, 60 succès, 60 matchs gagnés. C'est un type hors du commun, mais il était considéré aussi par ses camarades comme étant un peu rusé sur les bords. Il était capable de travailler en dehors de la glace aussi pour parfois gagner du temps, parfois. Ça, c'est ce qu'on va entendre tantôt avec un extrait que je vais vous faire entendre, lu par Marc Bélanger, qui malheureusement, ça n'est pas avec nous pour cause de bronchite. Avant qu'on l'entende en français, je voudrais vous en proposer un petit bout lu par Ken Dryden, parce que si vous voulez l'entendre en anglais, c'est sur toutes les plateformes que vous connaissez maintenant sûrement, Audible et compagnie. Et là, c'est lu en anglais par Ken Dryden. Un petit extrait.
Opinions, Scotty knows, are words. And words turn into stories. And in time, the best players and the best teams become those who have the best, most legendary stories told about them. Scotty, who saw all this live and still sees games live, also sees the numbers on his iPad. Numbers are eloquent. Trust performance.
Donc la voix de Ken Dryden, l'auteur de Scotty. Il en a écrit d'autres. Hein. Entre autres, il a écrit un livre qui s'appelle The Game, qui a été traduit par Le Match, mais qu'on ne retrouve pas en audio, un livre qui est considéré comme le meilleur livre jamais écrit sur le hockey et un des meilleurs ouvrages de tous les temps sur le sport. Imaginez, plus qu'un simple livre de hockey, même disent les amateurs. Et puis, Ken Dryden, faut-il le rappeler, maintenant membre du temple de la renommée du hockey et du panthéon des sports canadiens, il est reconnu comme l'un des plus grands gardiens de but de l'ère moderne. Il a peint déjà d'autres portraits très vivants et très chaleureux. On pense à Guy Lafleur, on pense à Larry Robinson, à Guy Lapointe et donc plus récemment à l'instructeur Scotty Bowman. Ça donne ce livre, Scotty, dont voici un autre extrait, mais lu cette fois-ci en français par Marc Bélanger.
Robbie, consterné et toujours incrédule, après que Hall fut expulsé de la partie, demeura assis au banc des joueurs. Scotty, pas tout à fait enclin à accepter la situation, passa finalement le message à Plante de descendre de la galerie de presse et d'endosser son uniforme le plus rapidement possible. Il fit ensuite un signe de tête à Robbie, qui patina lentement jusqu'au but des Blues. À ce moment, Doug Harvey, qui était sur la glace, patina nonchalamment vers Scotty. Harvey avait alors 43 ans. Il n'avait joué que 16 matchs de saison régulière dans la LNH au cours des 5 années précédentes. Le défenseur le plus dominant des années 1950, un dur de dur, indomptable et coriace, marmonna à l'oreille de Scotty. « On ne veut pas que ce type joue, n'est-ce pas? » Scotty ne répondit rien. Alors Harvey lui tourna le dos et se dirigea encore plus lentement vers le filet des Blues, où Robbie prenait des lancers de réchauffement. Harvey lui dit quelques mots. Au lancer suivant, qui était à plat sur la glace du côté de sa mitaine, Robbie effectua un grand écart, puis se jeta de dos sur la patinoire, l'air de souffrir atrocement, incapable de se relever. C'était un claquage, peut-être, ou encore l'aine ou la cheville. Quelque part dans le Madison Square Garden, le président des Rangers, Bill Jennings, s'était aperçu de ce qui se passait et avait foncé vers le banc des Blues. « Je vois clair dans ton petit jeu », avait-il rugi à l'endroit de Scotty. « Je sais que tu cherches à gagner du temps. Je vais te dénoncer à la Ligue. C'est une honte. »
Ken Dryden, donc, a écrit Scotty, dont on vient d'entendre un extrait, puisque maintenant le livre est en audio, lu par Marc Bélanger. Je vous le rappelle, si vous venez juste de vous joindre à cette émission. Quelques mots dans la presse. Dans la presse, justement, le journal La Presse, je ne sais plus qui est... Ah oui, c'est M. Pratt qui a écrit que vraiment, il n'avait pas aimé ce bouquin. Qu'il trouvait que ça manquait d'anecdotes, que c'était un rappel de choses que les admirateurs et les amateurs de hockey savaient déjà. Par contre, et en revanche, aurais-je dû dire, Régent Tremblay, dans le journal de Montréal, a écrit « Scotty, un très grand livre, laissez-moi vous en lire quelques lignes ». Ken Dryden avait déjà écrit un très grand livre, The Game, ça je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Il disait la première traduction était atroce et avait gâché l'œuvre de Dryden. Et plus tard, on a publié le livre sous le titre Le Match. Le titre était quelconque, mais la traduction était très bonne. En ce qui concerne les autobiographies, M. Régent Tremblay nous dit qu'avant Scotty, qu'il place vraiment dans son trio de tête, il avait adoré celle qui était consacrée à Mohamed Ali, le boxeur, et celle, l'autobiographie d'ailleurs, signée André Agassi. Le livre s'appelle Open. Je dois dire que là, je partage quelque chose avec M. Régent Tremblay, parce que moi, dans mon esprit, c'est vraiment la biographie, et surtout autobiographie, que j'ai préférée de toutes celles que j'ai pu lire, surtout dans le domaine du sport. Si vous aimez le tennis, malheureusement, ça existe en audio, mais pas en français, ça n'existe en audio qu'en anglais. Si vous êtes capable d'écouter l'anglais, eh bien, ne vous gênez pas, c'est sur toutes les plateformes. Alors, donc voilà, Régent Tremblay qui dit « Mais où est-ce que je vais placer Scotty sur le podium ?» Mais j'ai l'impression que ce sera à la première place. Il parle d'un récit troublant et fascinant. Alors voilà pour Scotty de M. Ken Dryden, en espérant que ça vous ait donné envie de le lire. Je vous rappelle que c'est un livre qu'on retrouve sur notre plateforme à nous, livreaudio.vusezvoix.com. Madame Christine and the Queen, qui était dans la science-fiction. On va y rester à des livres pleins les oreilles à Canal M dans le domaine de la science-fiction, avec notamment le cycle de Fondation d'Asimov. Bon, je sais que les amateurs du genre, pour eux, c'est vraiment un incontournable. Savent-ils que maintenant, ça existe en audio? Peut-être pas. C'est pour ça que je me suis permis la liberté de vous en parler aujourd'hui. D'abord, peut-être quelques mots sur Asimov, Isaac Asimov lui-même, qui était titulaire d'un doctorat en biochimie. Au départ, ça ne laissait pas beaucoup de place à la science-fiction, quoique ce scientifique de formation était issu d'une famille russe qui avait émigré en Amérique en 1923. Il avait obtenu la nationalité américaine à l'âge de 8 ans. Ses parents étaient libraires et c'est comme ça qu'il a appris très rapidement la langue anglaise à force de lecture et de l'âge de 11 ans. Et dès l'âge de 11 ans, il écrivait déjà ses propres premières nouvelles. Quand je dis que la lecture nous aide à apprendre une langue, je le dis, je le crie sur tous les toits. Eh bien là, on en a encore une fois la preuve. Sa première nouvelle s'appelait « Au large de Vesta », c'était en 1939, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il a obtenu sa licence en biochimie. Alors, il est connu également pour le cycle des robots et ses fameuses trois lois de la robotique. Mais il est aussi très connu pour ce livre dont je vous parle maintenant, Fondation, le cycle de Fondation. Il est mort, ça c'est pour ceux qui l'ignoreraient, il est mort en 1992, Monsieur Asimov, des suites d'une insuffisance cardiaque et rénale qui serait due au VIH. Il aurait été, au conditionnel bien sûr, contaminé, je dis bien sûr, vous allez comprendre pourquoi, contaminé par une transfusion sanguine infectée en 1983. Mais l'affaire n'a été rendue publique qu'en 2002 par peur de préjugés à l'encontre de la famille Asimov. Alors, rappelons, avant d'en écouter un petit bout de ce cycle de Fondation, au tout début, au tome 1, on est au début du 13e millénaire. L'Empire n'a jamais été aussi puissant, nous dit-on dans le résumé que nous offre Audiolib, qui a produit cette série. L'Empire n'a jamais été aussi puissant, aussi étendu à travers toute la galaxie. C'est dans sa capitale, qui s'appelle Trantor, que l'éminent savant Harry Seldon, c'est là où le chimiste n'est pas loin, invente la psychohistoire, qui est une science nouvelle permettant de prédire l'avenir. Grâce à elle, Seldon prévoit l'effondrement de l'Empire d'ici 5 siècles, suivi d'une ère de ténèbres de 30 000 ans. Réduire cette période à 1 000 ans est peut-être possible à condition de mener à terme son projet, la Fondation, chargée de rassembler toutes les connaissances humaines, une entreprise visionnaire qui rencontre cependant de nombreux et puissants détracteurs. Voici un extrait, je pense que c'est un extrait du tome du livre 3. Je me suis dit de toute façon que c'était tellement dense. On vous offre un extrait sur le site d'Audiolib, de chaque livre. Le dernier va paraître ou vient de paraître là au début du mois de mars. Ça a commencé au mois de novembre que le tome 1 est sorti. Vous pouvez entendre un extrait pour chaque tome. Ça, c'est vrai pour toutes les plateformes. C'est vrai aussi pour la nôtre, si vous voulez vous rendre compte un petit peu de ce à quoi ressemblent les livres audio. Et c'est grâce à cela, d'ailleurs, que moi-même, je vous présente des extraits. Alors, voici un extrait de la Fondation, du cycle de la Fondation d'Isaac Asimov, lu par Stefan Ronchevski.
L'air lugubre, le cou tendu. On eût dit, à la voir, que cette fragile brindille de chair était prête à se rompre. Si seulement il avait vécu une minute de plus. Il était sur le point de me dire où se trouvait la seconde fondation. Il le savait. Je vous dis qu'il le savait. Je n'aurais pas été contraint de battre en retraite ainsi. Je n'aurais pas été contraint d'attendre comme cela. D'attendre. Encore et toujours. Que de temps perdu. 5 années gaspillées pour rien. Preacher n'aurait pu taxer de faiblesse le dépit somme toute puéril manifesté par son chef. Le contrôle mental permanent dont il faisait l'objet le lui interdisait formellement. Au lieu de cela, il se sentait vaguement mal à l'aise. Un peu troublé. Quelle autre explication pourrait-on proposer, monsieur ? Demanda-t-il. J'ai effectué 5 explorations. Vous en avez établi vous-même les itinéraires. Je n'ai négligé aucune planète. J'ai exploré jusqu'au moindre astéroïde. 300 ans se sont écoulés depuis que Harry Seldon a prétendument établi 2 fondations qui devaient servir de noyau à un nouvel empire et remplacer celui qui agonisait alors. 100 ans après la mort de Seldon, la première fondation s'était fait connaître à travers toute la périphérie. 150 ans après Seldon, à l'époque de la dernière bataille contre le vieil empire, elle était connue de toute la galaxie. Aujourd'hui, après 300 ans, où pourrait donc bien se trouver cette mystérieuse seconde fondation ?
Toujours toujours chez Audiolib, je voudrais vous présenter Métro 2000. Voyons, je vais me reprendre, je vais me calmer un peu. Toujours chez Audiolib, je voudrais vous présenter Métro 2033. Voilà, ça va tellement mieux, de Dmitri Gloukovski, lu par Julien Châtelet. Nous sommes en 2033, une guerre a décimé la planète. La surface inhabitable est désormais livrée à des monstruosités mutantes. Moscou est une ville abandonnée, les survivants se sont réfugiés dans les profondeurs du métropolitain, où ils ont tant bien que mal organisé des micro-sociétés de la pénurie. Alors dans ce monde réduit à des stations en déliquescence reliées par des tunnels et où rôdent les dangers les plus insolites, le jeune artilleur entreprend une mission qui pourrait le conduire à sauver les derniers hommes d'une menace obscure.
Ce fut à cet instant que lui revint à l'esprit le souvenir de l'épithète dont s'était affublé Hunter lors de sa présentation. Le chasseur. « Allez, Artyom, serre-nous le thé tant qu'il est chaud. Et toi, Hunter, assieds-toi. Alors, quoi de neuf ?» lança Sukhoï. « Ça fait un sacré bail qu'on ne s'est pas vu. Pour le perso, plus tard. Rien d'intéressant, de toute façon. C'est chez vous qu'il y a du bizarre. L'espèce de non-vie qui rampe, du nord. Entendu tout et n'importe quoi aujourd'hui, durant la garde. C'est quoi, au juste ?» demanda Hunter avec sa manière à lui de hacher les phrases. « C'est la mort, Hunter, » répondit Sukhoï en s'assombrissant soudain. C'est notre mort future qui approche, notre destin qui rampe vers nous. Voilà ce que c'est. Pourquoi tu me parles de mort? J'ai entendu dire que vous vous en sortiez plutôt bien. Ils n'ont pas d'armes. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'ils sont, qui ils sont et d'où ils viennent. J'ai jamais entendu parler de trucs comme ça dans d'autres stations. Jamais. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'ici. Alors je veux savoir ce que c'est. Je flaire une grande menace. Je veux connaître sa nature. Je veux connaître son potentiel. C'est pour ça que je suis là.
Voilà un extrait du livre Métro que vous pouvez également retrouver chez Audiolib. Voyez-vous, sport et science-fiction, il y en a vraiment pour tous les goûts dans le domaine du livre audio. Je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Seille, c'est l'émission Des livres plein les oreilles qui est produite et diffusée par Canal M et que vous pouvez également retrouver en podcast, notamment sur le site Book, livre de Apple Book. Alors ne manquez pas ça, mais bien d'ailleurs aussi les balados, ça se retrouve à peu près partout. En seconde partie, je vais recevoir l'adorable Claudia La Rochelle. Restez avec nous. Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors, en seconde partie de cette émission, on va tout de suite retrouver la vivifiante Claudia La Rochelle, qui est à la littérature au Québec, ce que les crampons sont à la glace. Elle nous présente deux de ses plus récentes lectures, disponibles bien sûr en audio, sinon vous n'écouteriez pas cette émission des livres pleins les oreilles. Et en toute fin d'émission, j'ai des petites nouvelles pour vous et des nouveautés à vous glisser dans le cœur via les oreilles, justement. C'est parti.
J'ai encore perdu ton amour, tu sais. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Je l'ai pourtant rangé comme il fallait. C'est pas croyable comme tout disparaît. Mais j'ai trouvé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, au vertu sympathique, sous décollage à la gomme arabique. J'ai aimé fouiller tous nos secrets. Je n'ai rien trouvé dans le peu qu'il restait. Sous quelques brouilles au fond sans intérêt, des boules de gomme et des matins parfaits. Mais j'ai gardé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous décollage à la gomme arabique. Perdu ton amour, c'est vrai. Mais après tout, personne n'est parfait. Si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Je garderai dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous des collages à la gomme arabique. J'ai encore perdu ton amour, tu sais. C'est pas croyable comme tout disparaît. Si tu t'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. J'ai encore perdu ton amour, tu sais. C'est pas croyable comme tout disparaît. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait.
Oui, oui, vous n'avez pas rêvé, c'était bien du William Scheller, chanté par Christophe, le carnet à spirale, écrit à l'encre sympathique. Et c'est pas par hasard d'ailleurs si j'avais choisi ça. Salut Claudia!
Allô Clotilde!
Ah, que j'aime cette voix que je retrouve avec bonheur. Je suis sur les auditeurs aussi, régulièrement, sur nos ondes. Ça va bien?
Oui, ça va, toi?
Bon, ça va très bien aussi, vraiment. La fille est en forme. Bon, tu sais qu'au moment où on va diffuser l'émission, on sera le 6 mars, j'aurais pu faire une émission spéciale sur les femmes. Je t'avouerais que moi, j'en fais rarement parce que je me dis, moi, les femmes, je veux en parler tout le temps. J'ai pas envie d'en parler juste pour une émission. Mais s'il y avait une autrice dont j'avais envie de parler et dont j'avais envie que tu parles, c'est bien celle dont on va évoquer tout à l'heure un livre qui est Toni Morrison. Juste avant, Madame Morrison a déjà été prix Nobel. Tu vas nous parler d'un autre prix Nobel aussi et d'un autre bouquin. Donc, c'est Patrick Modiano.
Oh,
je
l'aime tellement.
C'est vrai, hein?
Ah oui. Ah, moi, il me fait prendre conscience du temps qui passe, cet écrivain-là.
Ah, oui.
Alors, et il me fait voir Paris à chaque fois.
Ouais.
C'est un homme de Paris, c'est un homme qui connaît son coin, son patelin, qui l'habite. Il y avait une chanson qui chantait ça déjà. Là, je te lance un défi.
Vas-y, vas-y.
Non, mais il y avait un chanteur qui chantait l'ombre de Patrick Modiano. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut le croiser partout.
C'est pas de l'herbe?
Oui, c'est ça. Oh,
c'est Delerme, hein? Vincent Delerme, le oui, fils d'eux.
Oh, donc, c'est ça. Et très étrangement, petite anecdote, un soir, j'étais à Paris dans un restaurant, dans le 6e, ça fait très simple de dire ça, et il était à la table à côté de moi, alors que je lisais son roman. Alors,
non.
Ça, c'est l'anecdote. Oui, 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 vraiment. Et c'était quoi les chances, là, tu sais?
Il l'a vu? Vous vous êtes parlé?
Non, j'étais trop gênée, peux-tu croire?
Oh.
Alors voilà.
En même temps, c'est touchant. En même temps, qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est ça.
C'est touchant parce que j'aurais dû aller le voir. Il ne lui donne jamais d'entrevue. Il est très discret.
Ouais.
J'ai l'impression que je voulais le laisser comme ça dans sa bulle. Il était très tôt, hein, les Parisiens ne mangent pas tôt. Moi, je mangeais à l'heure de la Canadienne, de la Québécoise. Il était très tôt. J'imagine qu'il ne veut pas rencontrer personne. Je le laisse dans sa bulle. Alors voilà pour la petite anecdote. Mais là, il revient avec Encre sympathique.
Oui, oui.
Ah, un nouveau roman, tout court, parce que Modiano fait dans le court, et c'est un autre roman dans la petite collection que j'adore, la collection Blanche, chez Gallimard.
Mm-hmm.
Et c'est un roman qui me fait un peu penser à Jean Echenoz, dont je vous ai parlé hein, déjà du dernier roman, le plus récent de Jean Echenoz, où il était question d'une enquête. Bon, c'est sûr que Modiano lui donne pas dans l'abracadabra. Il y a pas cette couleur-là. Il y a sa petite voix mélancolique
oui.
toujours. Et c'est le personnage. Son personnage, c'est Jean Hébin, qui est le narrateur, qui est un employé dans une agence. Et Il va rouvrir un dossier, cold case, sorte de cold case, là, une disparition de Noël Lefebvre, une femme qui est disparue, dont on a retrouvé son carnet de notes. Et le dossier ne contient pas grand-chose, si ce n'est que des petites informations qu'il va aller à la pêche ici, à droite et à gauche, pour essayer de la retrouver. Donc, on mène l'enquête avec lui. Et c'est vraiment intéressant parce que, en même temps, ça témoigne de... Il parle beaucoup des disparitions. Et beaucoup de romans, en ce moment, parlent de disparitions.
Ah oui?
Oui. Et je trouve que à chaque fois, j'observe que c'est comme... Ça explique beaucoup sur notre époque, ces livres-là, les thèmes majeurs. Alors, comme il y a beaucoup de thèmes autour des disparitions, je pense à Guy Lalancette avec les cachettes là, qui vient de sortir,
oui.
Qui sera sûrement livre audio éventuellement pour Vive et Voix. Mais je pense que les gens ont besoin de se cacher un peu.
Oui.
Je pense que l'époque là, de quête de lumière, puis d'être connu, puis d'être vu avec les réseaux sociaux notamment, je pense que ça... Il y a quelque chose qui a un besoin d'être seul ou de se pousser un peu.
Oui,
et
c'est
ça, entre sympathique... C'est encore un roman de flânage, comme je peux le dire, mais un roman de flânage dans une quête aussi à travers une femme qui a voulu un jour disparaître. Pourquoi? Et c'est la question que l'excellent Patrick Modiano pose dans ce roman-là.
Et c'est lu par le non moins excellent Denis Podalydès, et en voici un extrait.
Encre sympathique, Patrick Modiano. Qui veut se souvenir doit se confier à l'oubli. À ce risque qu'est l'oubli absolu et à ce beau hasard que devient alors le souvenir. Maurice Blanchot. Il y a des blancs dans cette vie, des blancs que l'on devine si l'on ouvre le dossier. Une simple fiche dans une chemise à la couleur bleu ciel qui a pâli avec le temps. Presque blanc, lui aussi, cet ancien bleu ciel. Et le mot dossier est écrit au milieu de la chemise, à l'encre noire. C'est le seul vestige qui me reste de l'agence de Hutte, la seule trace de mon passage dans ces trois pièces d'un ancien appartement dont les fenêtres donnaient sur une cour. Je n'avais guère plus de 20 ans. Le bureau de Hutte occupait la pièce du fond avec l'armoire aux archives. Pourquoi ce dossier plutôt qu'un autre? À cause des blancs, sans doute. Et puis, il ne se trouvait pas dans l'armoire aux archives, mais il demeurait là, abandonné sur le bureau de Hutte. Une affaire, comme il disait, qui n'avait pas encore été résolue, le serait-elle jamais?
On en prendrait d'autres,
Ah, tout le temps, c'est ça, Modiano.
Oui, c'est ça. Et puis quand, en plus, c'est porté par une voix exceptionnelle et une lecture vraiment mirifique de M. Podalydès, on en prendrait des heures et des heures. Mais je suis obligée aussi de vous amener, chère Claudia, de t'amener vers... Toni Morrison, qui malheureusement nous a quittés en 2019. Mais quelle bonne femme! Et quel livre!
C'est Beloved.
Beloved, qui a été prix Pulitzer, je pense. Parce que ça, c'est pas une nouveauté, évidemment. Ça fait déjà un paquet de temps que c'était sorti. Ça, c'est quoi? C'est 89? 88?
80? Moi, je la trouve très bonne, Clotilde, de mémoire de feu. Alors, c'est paru en 87, Beloved.
Bon. Okay.
Et ça a remporté effectivement le Pulitzer en 88. Et Toni Morrison a reçu le Nobel, une des rares femmes à l'avoir obtenu, en 1993. Donc, c'est ça, pour la petite histoire de cette extraordinaire écrivaine. Il y a un roman... donc, ce roman-là a été adapté aussi au cinéma par Jonathan Demme avec Oprah Winfrey, donc dans le rôle principal.
Oh, oui! Oh, j'ignorais ça complètement.
Ouais, il y a eu ça, on l'échappait.
Ah oui, non, alors là, ça, ça m'est pas... Non, vraiment, oui. Alors, dis-moi, donc là, Beloved.
Ah oui, bon, Beloved. Alors, c'est un roman intemporel, dans le sens que ce que je veux dire par là, c'est que non, c'est ancré dans une certaine temporalité, mais intemporel dans le sens qu'on peut le lire, on peut l'avoir lu en 87, comme on pourrait le lire, je pense, dans 20 ans, et il aurait toujours sa même force, ce même impact, ce livre-là, puisqu'il est question d'une relation... une relation maternelle, mère-enfant, beaucoup. Il est question d'esclavage aussi. C'est des luttes qui sont encore, colonisation, tout ça, des luttes qui sont encore menées aujourd'hui. Alors, on est dans l'après-guerre, dans la guerre, après la guerre de sécession américaine. Et il y a un personnage, une femme qui s'appelle Seth, S-E-T-H-E, qui est une ancienne esclave et elle a eu, bon, puis on le découvre par analepse en faisant des retours dans le temps, mais on découvre qu'elle a dû, pour que sa fille échappe à l'esclavage, parce qu'elle portait en elle un enfant qui était une petite fille, et pour que cet enfant-là échappe à l'esclavage, elle a dû la tuer, finalement. Oui. Et elle va toute sa vie être obsédée par l'image de cet enfant. Et il y a les enfants, donc, qu'elle a laissés derrière elle, des garçons, des filles qui habitent avec sa belle-mère, et eux ont l'impression que un fantôme, parce qu'ils sont pas tellement au courant de cette histoire-là, mais qu'un fantôme habite la maison. Donc, tout tourne autour de cette voix absente, de ce fantôme qui est présent à sa manière aussi. Et cet enfant qui s'appelle Beloved, probablement, on pense qu'elle serait peut-être revenue, et un jour elle va ouvrir la porte cette héroïne, et ce sera justement cet enfant-là qui se dit être
cette petite fille,
la petite fille en question. Voilà.
Claudia, tout le monde, je vais vous proposer un extrait. C'est lu mon Dieu, je l'ai vu tantôt et puis tout d'un coup je l'ai perdu et je voulais tellement pas. C'est lu par Anne Alvaro. Je vous le dis tout de suite, c'est en lice pour le prix du livre audio Audiolib. Si vous allez sur le site d'Audiolib, vous verrez que tous les ans, il y a un jury, et c'est un jury d'auditeurs, donc de lecteurs par les oreilles qui votent. Ce prix-là fait partie des 10 qui sont en lice pour le prix du livre Audiolib. Lu par Anne Alvaro, et nous allons comprendre pourquoi.
Le 124 était habité de malveillance, imprégné de la malédiction d'un bébé. Les femmes de la maison le savaient, et les enfants aussi. Pendant des années, chacun s'accommoda à sa manière de cette méchanceté. Puis, à partir de 1873, il n'y eut plus que Seth et sa fille Denver à en être victimes. La grand-mère, Baby Suggs, était morte, et les fils, Howard et Bugler, s'étaient enfuis à l'âge de 13 ans. Là, le jour où un simple regard sur un miroir le fit voler en éclats, ce fut le signal pour Bugler. L'autre, le jour où l'empreinte de deux petites mains apparut sur le gâteau, cela décida Howard. Aucun des deux garçons n'attendit d'en voir davantage. Plus de chaudronnées de pois chiches renversées toutes fumantes sur le plancher. Plus de biscuits secs écrasés et émiettés en ligne contre la porte. Non, ils n'attendirent pas non plus l'une des périodes de répit, ces semaines, voire ces mois, où tout était calme. Chacun d'eux s'enfuit dans l'instant, au moment même où la maison commit l'ultime outrage dont il leur sembla impossible d'être les témoins passifs une seconde fois. En l'espace de 2 mois, en plein hiver, ils abandonnèrent leur grand-mère Baby Suggs, Seth, leur mère, et leur petite sœur Denver, les laissant se débrouiller seuls dans la maison grise et blanche de Bluestone Road.
Voilà. Anne Alvaro. C'est beau, hein?
Oui, puis ça me fait me souvenir que je l'ai lu très longtemps, ce roman-là. Alors là, ça, évidemment, il y a des choses qui me reviennent, comme cette malédiction obsédante. Là.
Oui, ouais. Exactement. Et puis, ces silences, ils n'ont pas eu peur chez Audiolib de les laisser tels quels dans la lecture. Parfois, on a tendance à vouloir un peu trop vite rapprocher. Et vraiment, moi, au début, j'ai été surprise par cette voix-là, puis... Je m'en suis littéralement fondue dedans, et là aussi, ça m'a franchement donné envie d'en entendre plus. Et c'est pour ça que l'émission existe avec Claudia, c'est pour donner envie à tout le monde peut-être d'aller jeter une oreille parfois sur la littérature. C'est différent de lire avec les yeux, mais ça a aussi son charme, surtout quand c'est lu comme ça. Moi, quel bonheur. Claudia La Rochelle, toujours une joie. On a pété le temps, mais c'est pas grave.
Ah, oh, mon Dieu.
On s'en fiche comme je tu savais, ma chère Claudia. C'est pour ça que maintenant, je finis toujours avec mes propositions à moi. Puis comme ça, je fais ce que je veux de mon temps. Mais je ne veux plus te bousculer comme j'ai pu le faire à une époque.
Ben
voilà.
Voyons donc.
Alors
merci.
De rien, et puis prends soin de toi.
Mais oui, pareillement. Bye-bye.
Bye-bye.
Les jours et les saisons la couleur de mes yeux, les paroles des chansons, celles qu'on chantait à deux, le chemin de ta maison. Comment se maquillent les yeux, la fête de tes enfants. Mais oublie pas mon nom. Tes souvenirs d'avant. Je verrai sur eux, je les rattraperai au vent, je te raconterai si tu veux. Je nourrai des ficelles, des souvenirs qui s'étialent, et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerveaux.
Je suis sûr que monsieur le maître, notre musicien ici qui vous offre des émissions musicales à chaque semaine serait bien d'accord avec moi. Ça fait du bien en 2020 de voir des gens comme Ingrid Saint-Pierre savoir poser des blanches, savoir poser des belles notes rondes, savoir poser un quatuor de violon comme ça. Celle-ci, vous la connaissez sans doute, Ingrid Saint-Pierre, qui interprétait Ficelle. Bon, on change de registre complètement avec Shantaram de Gregory David Roberts. Ça, c'est une brique, mes amis. 41 heures de lecture. Nous sommes en Australie en 1980, avec Lin qui s'évade de prison, qui atterrit sous une fausse identité dans les rues fourmillantes de Bombay, où il espère disparaître. Il pénètre peu à peu le monde secret de la ville dorée, où se côtoient prostituées et religieux, soldats et acteurs, mendiants et gangsters. C'est alors le début d'un long parcours initiatique au cours duquel sa vie sera bouleversée. Il va être docteur dans un bidonville avant d'intégrer la mafia de Bombay. L'un connaîtra l'amour, mais il devra aussi faire face à la trahison et à la violence. C'est une œuvre culte, portée par la lecture pleine de nuances et de passion de Damien Witeka, ou Witeka, nous dit-on, sur le site d'Audiolib qui a produit ce bouquin dont je vous rappelle le nom, Shantaram, S-H-A-N-T-A-R-A-M, de Gregory David Roberts, dont voici un extrait.
Shantaram, de Gregory David Roberts, traduit de l'anglais par Pierre Guglielmina, lu par Damien Witeka. La première chose que j'ai remarquée à Bombay, le premier jour, était l'odeur d'un air différent. J'ai pu la sentir avant même de voir ou d'entendre quoi que ce soit de l'Inde, dès que j'ai parcouru le tunnel qui reliait l'avion à l'aéroport. J'étais excité et ravi par l'odeur de cette première minute à Bombay, évadé de ma prison et prenant un nouveau départ dans le vaste monde, mais je ne l'ai pas reconnu et j'en étais incapable. Je sais maintenant que c'est l'odeur douce et suintante de l'espoir, qui est le contraire de la haine, et c'est l'odeur aigre et confinée de la cupidité, qui est le contraire de l'amour. C'est l'odeur des dieux, des démons, des empires et des civilisations en pleine décomposition et résurrection. C'est l'odeur de chair bleue de la mer, où que vous soyez dans Island City. Et c'est l'odeur de sang et de métal des machines. C'est l'odeur de l'agitation, du sommeil et des déchets de 60 millions d'animaux, dont plus de la moitié sont des humains et des rats. C'est l'odeur des chagrins, de la lutte pour la survie, des échecs et des amours qui font naître notre courage. C'est l'odeur de 10 000 restaurants, 5 000 temples, hôtels, églises et mosquées, et de 100 bazars consacrés exclusivement aux parfums, aux épices, à l'encens et aux fleurs fraîchement coupées.
Et j'ai un autre livre à vous proposer chez Lizzie, cette fois-ci, L-I-Z-I-E. Ça s'appelle « Tout n'est pas perdu », c'est lu par Benoît Grimiot. C'est un roman coup de poing, nous dit Lizzie, sur la manipulation psychologique et les mécanismes de la mémoire. M, le magazine du Monde, Alan, du... Oui, le magazine du Monde, Alan Forrester... Pardon, M, le magazine du Monde. Ok, ça c'est un roman coup de poing sur la manipulation, j'avais du mal à me relire et je m'en excuse. Donc, nous dit un journaliste dans M, le magazine du Monde. On nous parle ici d'Alan Forrester, qui est un thérapeute dans la petite ville cossue de Fairview, Connecticut. Un jour, il va recevoir en consultation une jeune fille qui s'appelle Jenny Kramer, qui présente des troubles inquiétants. Elle a reçu un traitement post-traumatique afin d'effacer le souvenir d'une abominable agression dont elle a été victime quelques mois plus tôt. C'est un roman, il paraît à ne pas manquer pour ceux qui aiment se donner des sueurs froides. Tout n'est pas perdu de Wendy Walker, lu par Benoît Grimiot.
Lizzie présente Tout n'est pas perdu de Wendy Walker, lu par Benoît Grimiot. Pour Andrew, Ben et Christopher. Chapitre 1. Il la suivit à travers les bois derrière la maison. Le sol était jonché des débris de l'hiver, des feuilles mortes et des brindilles qui étaient tombées au cours des 6 derniers mois. Et s'était décomposé sous une couverture de neige. Elle l'a peut-être entendu approcher. Elle s'est peut-être retournée et l'a peut-être vu portant la cagoule en laine noire dont les fibres ont été retrouvées sous ses ongles. Lorsqu'elle est tombée à genoux, ce qui restait des fragiles brindilles s'est brisé comme de vieux os et a écorché sa peau nue. Son visage et sa poitrine étaient plaqués contre le sol, probablement par l'avant-bras de l'agresseur. et elle a dû sentir la brume des arroseurs automatiques qui aspergeaient la pelouse à peine 6 mètres plus loin, car ses cheveux étaient mouillés lorsqu'on l'a retrouvée. Quand elle était plus jeune, elle courait après les arroseurs dans son jardin, tentant de saisir les jets d'eau durant les chauds après-midi d'été, ou de les éviter durant les fraîches soirées de printemps. Son petit frère la pourchassait alors, nu comme un ver, avec son ventre arrondi et ses bras qui battaient l'air sans totalement parvenir à se synchroniser avec ses petites jambes. Parfois, leurs chiens se joignaient à eux, aboyant si furieusement qu'ils recouvraient leurs éclats de rire. Presque un demi-hectare d'herbe verte, glissante et humide, de grands cieux dégagés avec quelques nuages blancs cotonneux. Sa mère à l'intérieur qui les observait depuis la fenêtre, et son père qui rentrait d'endroits dont son costume portait encore l'odeur. Le café éventé du bureau de la concession, le cuir neuf, le caoutchouc des pneus.
Voilà un extrait de, je vous le disais, « Tout n'est pas perdu » de Wendy Walker, lu par Benoît Grimiot. Et ça, vous trouvez ça sur la plateforme de livres audio Lizzie. C'est ainsi que se referme cette émission des Livres pleins les oreilles pour cette semaine. Je voudrais remercier Claudia Larochelle d'y avoir une nouvelle fois participé. Et je souhaite à Marc Bélanger, qui n'a pas pu se présenter, bien un excellent rétablissement. Merci à Maurice Bolduc d'avoir été là cette semaine. De l'autre côté de la vitrine, c'était Clotilde Say qui vous souhaite une belle semaine et qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut !